Philippe Hurel, on est devant l'IRCAM, là, juste dans un café, on a un peu de musique, ça fait un peu d'ambiance. Comment on s'est fait court-circuit? Quelle idée vous est venue à ce moment-là?
D'abord, ça s'appelait court-circuit avant d'être un ensemble, puisque c'était une association que j'avais montée pour aider la production de CD quand le CD était florissant. Donc en fait, le court-circuit, c'était le moyen le plus simple d'aller entre l'aspect d'IDAM, MFA, les subventions privées, si on avait très peu, mais il y en avait un peu, etc. Et donc je m'étais dit, les compositeurs sont mal au moment où il faut monter ces dossiers, aidons-les et faisons ça. Et c'est en fait ce qui s'est passé. Et puis, par hasard, j'ai rencontré des mécènes suisses à l'occasion d'un vernissage privé. Et on s'est retrouvé à Genève et on a décidé de monter un ensemble, non pas un ensemble la première fois, un concert. Et les gens sont restés. Et c'est eux qui nous ont mécénés pendant 3 ans avant que l'État ne s'occupe de nous. Donc voilà, c'est une drôle d'histoire, le court-circuit. C'est pas du tout au départ le montage de l'ensemble. C'est après Pierre-André Valade qui a voulu diriger, qui m'a dit un jour, mais pourquoi on monte pas un ensemble? Je dis, bah, on garde le nom. Voilà, en fait, c'est comme ça que ça s'est passé.
Alors donc, c'était un peu court-circuiter les institutions.
Le court-circuiter, mais il n'y avait pas quelque chose de guerrier dans l'affaire. C'était pour moi, le court-circuit, c'est la chose qui va la plus vite, comme un court-circuit électrique, quelque chose qui vous pète dans la gueule comme ça et qui va plus vite que la lenteur administrative qui était pourtant il y a 23 ans bien moins pesante qu'aujourd'hui. Ouais, maintenant c'est devenu quand même, on a les records je pense en France de lenteur administrative, mais c'était un peu l'idée qu'il fallait pas attendre que les choses se fassent, on coupe dedans et on court-circuite le machin et on va plus vite. Et pour l'ensemble, il y avait quand même cette petite idée un peu taquine qui était que je trouvais que les pièces de 5, 6, 7 musiciens ces pièces-là, on les jouait pas très bien, je trouve, parce que les grosses structures étaient plus appliquées à jouer des pièces de 10, 15 musiciens dans une perspective de répétition d'orchestre. Alors que les pièces de 5, 6 musiciens sont à répéter énormément, même quand elles sont dirigées. Alors que dès qu'il y a un chef, on pense que ça va bien se passer. Moi, je pensais l'inverse. Donc, on a commencé avec des pièces comme Thaléa, par exemple, de Grisé. Puis après, quand on s'est attaqué à Vortex, c'est vrai que c'est des pièces qu'on a répétées énormément, malgré le chef. Donc, et je pense que les grosses structures d'ensemble sont moins habituées à travailler de cette façon-là, des pièces qui demandent vraiment des micro-répétitions, pour les micro-détails. C'était un peu ça aussi. Musicalement, c'était quand même ça l'idée de court-circuit. S'attaquer à des œuvres de Pierrot Lunaire un peu plus étoffées, ou Pierrot, et essayer de faire qu'on répète le plus possible sur des formats comme ça.
Donc trouver une économie adaptée, une organisation du travail adaptée.
Voilà, alors ça c'est le plus compliqué parce qu'on avait vraiment pas beaucoup d'argent au début. Si, au début oui, avec nos Suisses, c'était nos amis Suisses, Barbara et Luigi Pola qui sont toujours des amis, ils nous ont bien aidés, franchement bien aidés. Mais après on s'est retrouvé un peu dans la panade quand on a dû se débrouiller avec nos propres moyens. Et c'est à ce moment-là qu'on s'est dit que je me suis dit aussi, mais même Pierre-André, on s'est dit la même chose, qu'il fallait surtout pas lâcher, c'est sur les répétitions. C'est-à-dire que quoi qu'il arrive, vaut mieux faire moins, mais en continuant de répéter. Ce qui paraît évident, mais qui n'est pas évident en réalité, parce que la première chose qu'on est tenté de faire, qu'on a plus beaucoup d'argent, c'est pas diminuer le nombre de concerts, mais c'est diminuer le nombre de répétitions. Ça, moi, je m'y oppose. On peut pas faire ça. Il vaut mieux avoir une petite production, mais des pièces très très bien répétées. Surtout que plus l'effectif est petit, plus il faut répéter, parce que tout s'entend. Donc c'est là qu'il faut vraiment, et puis en général les pièces de plus petits effectifs sont plus difficiles que les pièces d'orchestre, en général, on peut pas, c'est une généralité que je fais, mais quand même globalement quand on joue un Vortex Symporum de Grisé, ça tombe pas sous les doigts, donc vraiment il faut beaucoup travailler ce répertoire là.
Donc vous avez surtout enregistré, travaillé le répertoire, on peut presque dire spectral et post-spectral.
Alors au début c'était un peu ma tasse de thé parce que j'étais en plein là-dedans, moi compositionnellement, mais très vite je me suis aperçu que monter des programmations avec des pièces qui ne tiendraient que de ce mouvement-là, ce serait un peu stupide parce qu'on s'ouvrirait à rien. On oublierait la moitié des bonnes pièces qui se passent autour de nous et on ferait pas des saisons. Faire une saison, c'est pas simplement jouer. Donc ça s'est vite agrandi. D'abord, il y a un truc qui me tient à cœur, moi, c'est la pulsation, le rythme et tout. Donc naturellement, il y a eu que des gens comme Marège, comme Matalon et puis après plein d'autres compositeurs. On a joué du Beat Fourreur, on a joué. Voilà. Alors il y a des compositeurs auxquels on s'est pas attaqué pour des raisons d'ensemble, d'effectifs d'ensemble et que je regrette de pas faire. J'aimerais faire l'Allegro Sostenuto de la Rodman, par exemple. C'est un projet que j'aimerais coupler avec Vortex, par exemple, en musique de chambre, non dirigé à ce moment-là. Et ça, c'est des grands projets que j'ai envie de faire. Non pas que l'effectif soit gros, mais parce qu'il faut que je trouve le bon lieu, le bon endroit, la bonne façon de le faire. Et donc, il y a des pièces qu'on n'a pas abordées, non pas par goût, mais parce que ça ne s'est pas posé de la bonne façon. Si on prend quelqu'un comme la Rodman, il n'a pas des pièces de 6-7 personnes dirigées, comme il y en a tant dans ma génération, par exemple. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, on a j'ai essayé d'ouvrir petit à petit à des gens qui n'ont rien à voir avec le spectre et là actuellement quand on regarde nos programmations à part quelques personnes comme Mauro Lanza qui ont affaire avec ça, dans la jeune génération, il n'y a plus personne qui a affaire avec ça en réalité.
Alors une question qui va venir qui est un peu insidieuse, mais vous êtes venu comment la musique contemporaine ?
Ça va vous faire marrer ça. Je me rappelle d'un prof de français quand j'étais en première qui nous parlait de Xenakis et nous faisait écouter des extraits. Et je disais, oh, c'est de la merde cette musique, parce que j'étais en pleine période rébellion rock et jazz rock, et voilà. Donc j'ai une période où j'ai abandonné le conservatoire quand j'étais à Toulouse pour m'adonner à des joies funkisantes et rockisantes. Je pense que ce qu'on vous dit dans votre vie, mon père était très mélomane, m'a fait écouter du Tilleux, Messiaen, etc. Évidemment, je disais, c'est pas terrible, voilà. J'étais un petit imbécile, quoi. Et puis, quelques années après, j'étais naturellement tenté d'aller écouter tout ça et j'ai pris une claque avec Xenakis. Les gens savent pas trop, que ceux qui s'intéressent à mon boulot, que c'est la grosse claque de ma carrière. Au début c'était Xenakis, rien d'autre. J'ai écouté Jonchée, je me suis dit mais qu'est-ce que c'est que cet ovni. J'ai joué Sinafai la première fois pour piano et ensemble, un peu petit, c'est cordes, oui c'est ça. Et donc je me suis dit mais c'est bien, tu es en train de t'orienter là actuellement vers une carrière plutôt jazzistique. Je voulais travailler beaucoup mon violon parce que c'est avec ça que je me défendais. Je pense que j'aurais pu faire une chose pas mal, j'aurais jamais été un grand virtuose du violon, mais j'avais assez d'idées pour... Et je me suis aperçu qu'en fait je passais mon temps à composer des thèmes et des machins comme ça pour les groupes avec qui je jouais. Et je m'aperçois que c'est ce qui m'intéressait, non pas de jouer en réalité. Et quand j'ai écouté Xenakis, je me dis mais c'est bien sûr, c'est là qu'il faut que je fonce. C'est là où il faut vraiment qu'il y ait un truc... C'est là où je pourrais m'épanouir. Donc voilà. Et alors j'habitais en province et ça n'a pas été facile parce que tous mes profs, à part un, mon prof d'harmonie, qui était un type formidable, m'a dit fonce, vas-y, faut le faire. Mais sinon, on m'a plutôt découragé.
Et vous habitiez où en région ?
À Toulouse. Mais à Toulouse, il y avait. Faut se rappeler que en 74, 15, 16, par là, la musique contemporaine, elle est passée juste par le monde de la musique où on faisait l'apologie de deux compositeurs au maximum. Sur France Musique, il y avait beaucoup de choses. Mais par contre, on n'avait rien sur place, nous. On n'avait pas grand-chose. Des gens qui passaient, j'ai vu du Tilleux en concert, j'ai écouté son quatuor à la fac. Mais on était vachement coupés de la réalité scénique. Et donc, c'est là que j'ai décidé, je dis, je vais à Paris, il faut vraiment... Et toute chose très marrante, je suis arrivé ici, première chose que j'ai fait, j'ai descendu les escaliers de l'IRCAM, j'ai été prendre mon abonnement rue de l'Échelle, à l'époque c'était, je sais pas quoi, je suis passé à l'EIC prendre un abonnement pour l'année, et je me suis retrouvé à tous les concerts, Ensemble Intercontemporain, Itinéraire, IRCAM, dès ma première année, c'était un choc, et à la radio, où il y avait les perspectives du XXe siècle et ces trucs-là, on allait manger à Crêpe à la Une en face pour 5 francs, et je passais mes journées gratuites, ça je tiens à le dire parce que c'était génial cette époque, gratuites à écouter des créations, gratuites avec des amis, on discutait, c'était vraiment génial, je ne vais pas faire le vieux con nostalgique, mais c'était une époque, qu'est-ce que c'était riche en vie, ouais c'était formidable.
C'était en quelles années ?
Bah ça c'était, moi je suis rentré au conservatoire en... C'était 60, 80 max, 80. Ouais, j'ai dû rentrer en 81. Je sais plus exactement, 80 ça devait être. Donc j'avais 25 ans, c'est ça. Et à 25 ans, c'est l'âge où on se construit en plus au niveau musical. Et pas automatiquement avec des grands compositeurs que vous côtoyez. On se construit plutôt facilement avec des jeunes gens qui sont de votre génération. Et finalement, j'ai plus appris une fois de camarades jeunes que de gens plus âgés. J'apprenais dans les partitions des plus âgés, mais dans les jeunes, j'apprenais des choses qu'eux avaient aussi tirées des partitions des autres. C'est ce genre de grand mélange permanent de vie ensemble qui fait qu'on est... D'où l'intérêt, je trouve, des académies d'été, tout comme ça, que moi, j'ai pas fréquenté, mais j'avais des enfants jeunes et il a fallu que je compose l'été, que je gagne ma croûte très vite dans l'année. Donc, j'ai été très frustré de ça. Mais c'est vrai que je voyais que c'est là que se passaient les choses. Puis on s'est retrouvé aussi après chez... Moi, je suis rentré au conservatoire de Paris chez Ivo Malek. Là, je me suis vraiment régalé. Et en plus, j'allais en cachette. On disait pas Ivo. On allait chez Tristan, qui nous donnait pas des cours de compo. J'y suis allé deux, trois fois, moi, parce que toujours avec mes problèmes de... J'enseignais pour gagner ma croûte. Et j'ai pas eu des études très calmes, à vrai dire. Et quand j'allais chez Tristan, c'est vrai que il nous donnait non pas des cours de compo, mais d'informations sur l'informatique musicale naissante, sur plein de trucs. Enfin, c'était un bouillon de culture super, vraiment super.
Et là maintenant, on se retrouve à 60 ans, presque un âge canonique, où on reconnaît les compositeurs. C'est bizarre hein, dans notre pays. J'ai l'impression que 60 ans, et je l'ai aussi bien vu pour Edvech ou pas mal de grands compositeurs, c'est l'âge où on les reconnaît.
Bah, disons qu'il y a un trou que j'avais observé chez les compositeurs qui m'entouraient à la cinquantaine, qui est un trou très dangereux où on se dit où on tient le coup, où on passe à la trappe. et on peut passer à la trappe pour des raisons totalement injustes. Hein, on a vu Bartok, la fin de sa vie, elle n'était pas joyeuse, c'était un énorme compositeur évidemment. Et donc moi j'ai eu très peur, j'ai vu aux alentours de 50 ans, j'ai eu très peur d'une chose, c'est qu'on me mette dans des boîtes du genre, oui, Hurel, il a fait, comme j'ai fait des petites pièces rigolotes, loupserie et machin, etc., que je trouve sympathiques, mais qui pour moi ne sont pas le fond de ma production. Hein. Donc on commençait à me cataloguer comme un compositeur qui groove, qui est sympa. Et là, je me suis dit, oula, là, il y a vraiment un énorme problème, parce que ce que je faisais à l'étranger, et que ne voyaient pas notamment les gens qui me suivaient en France, mais ils ne savaient pas ce que je faisais à l'étranger, mes grosses pièces d'orchestre, j'ai fait un spectacle aussi sur Pérec d'une heure, ces choses-là, c'est des choses qui viennent de longtemps. Des choses que que j'ai dans la tête depuis que j'ai 49 ans, 48 ans, 49 ans. Donc j'étais en train de monter toutes ces choses-là et j'avais l'impression que, qu'est-ce qui se passe? On a toujours l'impression que, en plus, le jeunisme aidant, et c'est très bien le jeunisme, moi aussi je programme plein de jeunes compositeurs, les jeunes générations arrivent derrière et vous poussent violemment, et ils ont bien raison de le faire, nous on l'a fait avant eux, et c'est un peu comme ça, et donc on se sent très fragilisé. Et ça fait peur, ça fait très peur. Autour de 52, 53, 54 ans, j'étais pas très, très à l'aise, non pas avec ma production, j'étais très peu à l'aise avec le milieu, parce que je m'inquiétais beaucoup. Il y a un autre paramètre aussi qui compte, c'est que à 50 ans, on s'intéresse encore à ce que les gens pensent de vous. À 60 ans, ça devient très relatif, c'est-à-dire qu'on finit par faire son truc, point barre, en se disant, de toute façon, il me reste peut-être 10 ans à vivre dans le meilleur des cas, donc il faut faire ses choix, et puis les gens aimeront pas. Et puis voilà, et puis moi je suis dans cette période où je me fous à peu près de... Je m'en fous pas évidemment, ça me rendra malheureux si on me dit que c'est pas bon, mais ça va pas changer ma façon de voir les choses, on est beaucoup plus imperméable d'une certaine manière. C'est vraiment un âge génial pour ça, je trouve.
Oui, je me rappelle vous avoir entendu, c'était au festival musical, c'était l'hommage à Griset, cette année-là je vous avais dit que vous étiez un spectral déjanté.
Tristan, que j'aime beaucoup, Tristan Muraille, m'a dit un jour, mais c'est des faux spectres que t'écris, parce qu'il trouvait que... Ou alors il me parlait de mes patterns rythmiques, et il dit, mais avec ça, mais tu vas pas t'en sortir avec ces trucs-là. C'est vrai que ça l'embêtait un peu, et comme lui c'est quelqu'un de pur et dur au niveau spectral, analyse spectrale, travail spectral... Bien que je ne sois plutôt assez rigoureux, moi, au niveau des fréquentiels et tout. Mais j'injecte toujours quelque chose qui n'a rien à voir avec la chose. Donc, mais c'est ma génération. Même si j'ai 60 ans maintenant, j'ai eu 35 ans. Et à 35 ans, on commençait à s'intéresser au mélange, à la postmodernité. Non pas au collage comme le font les jeunes maintenant, parce qu'on n'était pas encore assez gonflés. Et puis, Internet a changé beaucoup de choses. Le sampling a changé beaucoup de choses. Mais moi, je m'intéressais déjà à la façon dont vous pouvez servir d'une syntaxe. En utilisant des matériaux qui n'ont rien à voir avec cette syntaxe. Donc ça, c'est un truc qui m'a toujours passionné, et je continue à penser comme ça d'ailleurs. En partant du principe que le style d'un compositeur, et Stravinsky nous l'a prouvé d'ailleurs, c'est vraiment quelque chose qui est vraiment au-dessus de la syntaxe encore. C'est une façon d'appréhender la composition. La syntaxe se plie au style, et puis le matériau se plie à la syntaxe. Mais il faudrait faire un genre de pyramide comme ça pour essayer de comprendre. Et en fait, dans les conservatoires et dans l'enseignement qu'on a eu après l'avant-garde, c'est un peu la syntaxe qui était considérée comme le haut de cette hiérarchie de pensée. Et je ne suis pas d'accord là-dessus. Je pense que c'est le style, c'est un truc qui ne se définit pas. C'est un truc qu'on a. C'est un assemblage d'universaux qu'on peut retrouver dans une partition et qui font partie d'un compositeur et qui sont liés à des préoccupations souvent qui sont même pas musicales d'ailleurs, hein, qui sont plutôt structurales chez le compositeur. Et après, si, sa syntaxe peut être venue par hasard aussi de ses fréquentations, de son goût pour certaines choses. Mais après, il faut lui tordre le cou à cette syntaxe, cette grammaire, de façon à ce que... Donc du coup, pour lui tordre le cou, introduire des matériaux qui n'ont rien à voir avec cette grammaire peut être quelquefois bénéfique. C'est pour ça que j'admire Ligeti.